Je passe la parole à Anne Sauvagnard, qui enseigne à Paris 10 Nanterre, pour un exposé sur Deleuze. Alors, je crois que là, on retrouve évidemment une proximité qui est beaucoup plus grande avec notre propos d'hier. Je crois que Deleuze, déjà dans la préface de Différence et répétition, nous avait alerté son lecteur sur la qualité particulière d'un livre de philosophie dont il montrait qu'il avait quelque chose à voir avec un livre de science-fiction ou avec, même avec un roman policier dans le déroulement de l'intrigue et la rupture de la temporalité. Anne Sauvagnard a publié cette année un livre intitulé « Deleuze, l'empirisme transcendantal » et elle anime à l'ENS un séminaire intitulé « D et G » qui n'est
d'un mille et unième plateau.
Voilà, pardon. DG, c'est pas de moi. DG, oui, je pensais que c'était Dolce Gabbana, mais pas du tout, c'est Deleuze et Guattari. Donc voilà, dont je crois d'ailleurs la première séance se tiendra demain, si j'ai bien lu le programme, demain après-midi à l'ENS. Voilà, je lui cède la parole.
Merci beaucoup. Alors, en premier lieu, je voudrais dire toute mon admiration et ma fascination pour le travail que j'ai vu mettre en œuvre ici autour de Foucault. Je trouve ça absolument passionnant. Je pense que ça correspond d'ailleurs à un moment de l'histoire des idées dans lequel nous sommes tous pris et qui consiste en ceci, que la numérisation fait que nous sommes passés à un âge qui est celui de l'informatique et qui est aussi important pour l'histoire intellectuelle que l'invention du langage, de l'écriture, de l'imprimerie et de l'informatique. Et je crois que nous, chercheurs, philosophes, nous devons travailler dans l'interdisciplinarité pour prendre la mesure et pour contribuer à complexifier et rendre accessibles les fonds de pensée qui nous sont désormais accessibles, pas simplement du point de vue de l'archive matérielle des papiers, comme on l'a vu de façon très intéressante ce matin avec Yann Potin, et hier avec les travaux que vous faites de numérisation de Foucault, mais aussi par des brouillons vocaux et des postures, puisque là, par exemple, nous sommes enregistrés, et je pense que ça change considérablement l'histoire intellectuelle. J'arrête sur ce point, mais je veux dire que cette histoire intellectuelle, elle doit être prise peut-être pas simplement dans une anthropologie de la lecture. J'aime pas le mot anthropologie à cause d'anthropos, je voudrais une place des femmes un petit peu là-dedans. Bon, anthropologie de l'écriture qui montre que les idées ont toujours leur soubassement, leur face matérielle, leur zone d'individuation matérielle. J'en viens à Deleuze, je ne veux pas vous embêter trop avec Deleuze. J'ai combien de temps, en fait? Il faut que j'arrête de parler quand? À la demi?
Plus.
Au moins le quart. Parfait. D'accord. Donc, j'en viens à Mille Plateaux et à mes propres tribulations incertaines au moment où moi je me suis lancée dans l'étude de cet auteur. Et c'était juste après la mort de Deleuze. Donc, j'avais un corpus clos par le fait, et donc parfait. Un corpus clos comprenant un nombre d'œuvres limitées, ce qui pour un chercheur est aussi important, un nombre d'œuvres pas immense, et à l'époque où j'ai commencé à travailler sur lui, très peu d'œuvres secondaires. Et donc ma première démarche de chercheuse deleuzienne, si vous voulez, était formidable. Je vais, philosophe, n'avoir à ne m'occuper, si vous voulez, que de l'écrit, c'est-à-dire que de la pensée telle qu'elle a été rendue publique par son auteur, et j'avais donc une position qui est celle qu'on pourrait appeler une position internaliste du système. Je me suis rendu compte, au contraire, que à cause de mon ignorance et des difficultés que j'avais pour comprendre cette pensée vraiment très difficile, j'étais obligée sans arrêt de m'échapper de cette dimension interne pour parcourir des orbes, qui sont des orbes d'explication et de circulation, et de suivre, comme à la piste, roman policier, comme derrière les traces parfois très incertaines laissées par Deleuze, qui joue beaucoup sur les citations, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, suivre comme à la piste des circuits de découvertes intellectuelles dont je trouvait les traces à l'intérieur des œuvres et qui m'entraînait de plus en plus loin de Deleuze, malheureusement. J'ai lu comme ça tout Geoffroy Saint-Hilaire, enfin, un certain nombre de travaux, mais qui m'ont permis de reprendre pied dans Deleuze sur un mode qui, je pense, était très méthodologiquement satisfaisant, parce qu'on peut en tirer un principe de méthode générale, qui est que, depuis 68, la philosophie n'est plus dans un rapport spéculatif d'intuition avec des concepts que nous, philosophes, assis sur notre petite chaise, nous pourrions tranquillement visionner à l'intérieur de la chambre noire de notre pensée. Non. La pensée est en rapport avec des blocs d'agencement matériel pour lesquels les sciences sociales sont pour elles une source d'information absolument indispensable. Non seulement la philosophie doit être perméable aux sciences sociales et aux sciences dures, évidemment, comme elle doit être perméable aux arts et aux autres activités intellectuelles, mais encore plus, le rapport à la pensée ne doit plus s'entendre sous la forme intuitive de la spéculation pure, mais doit être construction de concept, construction dans lequel le rapport matériel aux agencements concrets, à ce que Guattari appelle les agencements de dénonciation et qui comprennent les positivités politiques et sociales, sont absolument indispensables. Voilà ce que m'a permis, si vous voulez, le premier point de départ, qui était donc celui d'une logique internaliste, incapacité de comprendre en s'en tenant à la lettre du texte, et donc parcours dans un ensemble discursif qui s'est ouvert très vite sur l'ensemble non discursif des milieux de diffusion intellectuelle et dans lesquels je comprends, non pas simplement, alors vous voyez bien que c'est une tâche infinie, on ne pouvait pas tout faire, bien entendu, je ne connais pas tout, et il faut se garder aussi d'une dimension d'exhaustivité, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais vous voyez bien qu'en réalité, il faut penser le concept non plus dans une statique logique purement intellectuelle, mais il faut le penser comme une cinétique du système, et dans cette cinétique, il y a des variations de concept. Et ces variations, elles sont internes à l'œuvre que vous étudiez, parce qu'elles bougent d'un livre à l'autre. À la vérité, dès qu'on a compris que le concept bougeait, on voit bien qu'il bouge tout le temps, il bouge d'une page à l'autre. Mais non seulement il bouge d'un livre à l'autre, mais il bouge dans le tissu de réception complexe que le livre forme avec les autres livres de son époque et avec les autres livres avec lesquels il est en résonance, c'est-à-dire avec la formation discursive dans laquelle il est pris. Or, il se trouve que ces éléments, si vous voulez, de lecture, mon attention a été attirée sur eux par le fait que chez Deleuze, il y a, dans Mille Plateaux particulièrement, une pratique de la citation qui est tout à fait extraordinaire et très amusante, qui est très ludique, parce que les citations collent par une sorte de mélange improbable dans un zoo qui est un bric-à-brac, un bazar, un capharnaüm, à la fois des références qui sont prestigieuses, Freud, Lacan, Kant, Spinoza, que sais-je, et puis des auteurs dont je suis bien persuadée que jamais vous n'en avez entendu parler, comme par exemple un célèbre médecin colonel qui a écrit un livre qui s'appelle « L'homme dans la steppe » et qui était colonel aux Indes. Je suis allée chercher le livre dans la bibliothèque, et quand on ouvre ce livre et qu'on le lit, on voit bien à côté de son caractère de document à quel point ce livre ne pourrait pas être pris comme pièce d'un équilibre intellectuel sans avoir été au préalable, été attiré dans l'orbe intellectuel de Mille Plateaux, dont moi, je l'avais extrait. Autrement dit, dans le rapport de citation, vous ne devez jamais considérer isolément l'œuvre ou bien la citation. Ce qui compte, c'est le va-et-vient entre les deux. Et de ce va-et-vient, évidemment, vous ne pouvez pas tracer une cartographie, j'essaierai de définir le terme tout à l'heure, ça va, j'ai encore un peu de temps, le terme tout à l'heure précisément, vous ne pouvez pas tracer une cartographie exhaustive du rapport entre le livre et sa citation, parce que l'idée même d'une exhaustivité relève d'une épistémologie statique qui n'est plus celle que nous mettons en œuvre lorsque nous pratiquons de telles expériences de lecture. Et donc, nous voilà conduits à inventer une systémique, une méthodologie théorique différente qui veut que le système philosophique ne soit plus un système en équilibre statique, mais devienne, soit pris comme une cinétique en mouvement, immobile. Je dis tridimensionnel parce que ça fait image, mais il a autant de dimensions qu'on veut, dans lequel les interventions du chercheur, la mienne ou bien la vôtre, vont faire changer les variables. Et on n'est pas pour autant condamné à un relativisme généralisé quand on essaye de développer une telle cinétique du système. Pas du tout. On peut au contraire méthodologiquement tâcher de repérer des zones de stabilisation provisoire et qui tiennent à l'ordre des questions que nous posons au texte. Et il se trouve que j'étais encouragée dans mon entreprise par le fait que chez Deleuze, il y a une formalisation de la lecture. Et cette formalisation, elle est de deux ordres. D'une part, Deleuze, lecteur de Foucault, je ne veux pas vous ennuyer trop avec du Deleuze, donc je vais parler un petit peu de Foucault, en tout cas du Foucault tel que Deleuze le voit. Deleuze est très intéressé par la lecture que Foucault pratique, et il revient à Foucault tout au long de sa vie. Il y a donc dans l'œuvre de Deleuze une sorte de journal théorique des interventions de Foucault, qui est passionnante parce que, comme il a recensé tous ses livres, vous pouvez lire la chronologie, le journal de la découverte par Deleuze d'une œuvre se faisant. Et comme Deleuze a écrit en 1986 un livre sur Foucault qui récapitule, vous avez en même temps que vous avez la chronologie linéaire des interventions dans l'ordre historique de leur succession, vous avez le repli théorique à un certain moment, qui n'est pas une totalisation. Je ne veux pas dire que ce qui est vrai, c'est le livre que Deleuze écrit en 1986, vous comprenez, mais qui est une sorte de pli qui montre comment en 1986, Deleuze reprend l'ensemble de ses interventions et donne un cliché, je veux dire par là une image arrêtée, de l'œuvre de Foucault tout à fait passionnante. Et Foucault, pour Deleuze, est celui qui lui permet de théoriser la lecture. Et si j'en ai le temps, je terminerai par deux formalisations distinctes de la lecture qu'on trouve dans Mille Plateaux, une dans le texte d'introduction, qui s'appelle Rhizome, et une qu'on trouve dans le dernier chapitre, qui s'appelle Le Lys et le Strier, et qui font écho l'une avec l'autre. Voilà. Petite goutte d'eau.